Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 26 avril, le couvre-feu à 19h, c'est tôt. Ce n'est pas une considération personnelle, mais une remarque faite par Emmanuel Macron ce matin qui visitait une école à Melun. Il prépare donc l'assouplissement à suivre. 6,5 millions d'élèves de maternelle et de primaire ont repris le chemin de l'école. 400 000 tests salivaires seront déployés cette semaine. Dans RTL Midi aussi, un nouveau projet de loi antiterroriste. Il y en a eu une vingtaine depuis 1986. Il sera présenté mercredi en Conseil des ministres alors qu'un hommage sera rendu cet après-midi à Rambouillet, à cette agente administrative assassinée par un Tunisien radicalisé vendredi au commissariat où elle travaillait. Les écolos font-ils dans l'anti-vieux? La campagne de publicité du candidat Julien Bayou qui s'en prend aux boomers lui est revenue en boomerang. Et puis le rêve des supporters lillois qui croient de plus en plus au titre de champion de France de football. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Alors vous nous la faites à l'envers aujourd'hui.
Exactement, les nuages au sud et le soleil au nord. Effectivement, c'est un peu l'envers de d'habitude, mais pourtant ça va être comme ça. Alors je trace un trait entre La Rochelle et Besançon à peu près, je regarde les images satellites. Au nord, ça sera du grand soleil tout au long de l'après-midi. Au sud, c'est l'inverse, ça restera nuageux et instable avec parfois des averses assez soutenues, notamment près des Pyrénées ou encore autour du golfe du Lion, avec parfois même de l'orage. Alors côté température, en revanche, sera très homogène, 12 à 15 ou 16 degrés près de la Manche, mais 17 à 21 degrés dans toutes les autres régions.
La question du jour sur RTL.fr, faut-il une nouvelle loi antiterroriste? Vous êtes 73% à dire oui, il y a 20% de non. On attend vos arguments au 32-10. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle, heureux de vous retrouver. Je suis content parce qu'Emmanuel Macron a découvert le Pérou à Orléans, 19h, c'est tôt. Donc c'est bien le couvre-feu, parce qu'on va pouvoir en parler tout à l'heure. C'est une information
c'est un bon sujet
capitale.
De conversation.
Exactement. Vous pourrez réagir également à une tribune de militaires retraités que Valeurs Actuelles a publiée, qui évoque le délitement de la France, et ils appellent Emmanuel Macron à défendre le patriotisme. Ça fait réagir. Autre sujet du jour, il y en a beaucoup. 25 000 manifestants en France réclament justice pour Sarah Halimi, tuée en 2017. Vous pourrez également réagir si vous êtes boomer au standard et comment vous avez jugé cette tribune de la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts au régional en Ile-de-France Julien Bayou. Quand je dis cette tribune, cette publicité.
Oui,
et puis la fête clandestine organisée hier en plein jour à Paris dans le parc des Buttes-Chaumont. Et si vous souhaitez rendre hommage à Yves Régnier qui nous a quittés ce week-end, eh bien appelez-nous au 3210.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour une fois, le coup de cœur de nos correspondants nous emmène aux Oscars à Hollywood. Ça vaut bien l'ouverture de ce journal. Colette a 93 ans. Elle est l'héroïne d'un documentaire en format court dont la productrice vient de recevoir la précieuse statuette. Il suit Colette, cette ancienne résistante qui se rend pour la première fois sur le site de l'ancien camp de concentration de Dora en Allemagne pour honorer la mémoire de son frère mort là-bas. Frédéric Veil, cette habitante de camp, est heureuse bien sûr, mais surtout généreuse.
Oui, généreuse, parce que lorsque je l'ai jointe ce matin pour la féliciter, Colette Marin-Catherine, qui n'a pas vu la cérémonie des Oscars la nuit dernière, m'a aussitôt répondu « Oh là là, ce n'est pas mon Oscar, c'est celui d'une équipe formidable ». Une équipe de tournage qui est d'abord venue filmer chez elle, puis au camp de concentration de Dora Mittelbau, où son frère Jean-Pierre a trouvé la mort.
Dans cette histoire-là, le personnage Colette a pris beaucoup d'importance, mais le but... C'était Jean-Pierre. Le but, c'était de remettre en valeur l'histoire de mon frère. Toute l'équipe qui a travaillé, ils ont été parfaits. Ils ont été extrêmement réservés. Ils ont été extrêmement respectueux des lieux. Quant à moi, à aucun moment, j'ai eu l'impression d'avoir une caméra qui me suivait, d'ailleurs. À aucun moment, on ne m'a dit « Mettez-vous comme ça, regardez à droite, envoyez la... » Pas du tout. Ils ont été remarquables. Donc, quand on me dit « tu as gagné l'Oscar », j'ai rien gagné du tout. Comme dirait l'autre, je gagne peut-être à être connu, mais encore, c'est pas sûr.
Reste que Colette m'a tout de même confié être très heureuse, d'autant plus qu'hier, elle a soufflé ses 93 bougies.
Et elle a du verbe, Colette. Merci Frédéric Veil. Parmi les Français couronnés aussi par un Oscar, Nicolas Becker pour le son du film Sound of Metal et Florian Zeller pour la meilleure adaptation de sa pièce Le Père, devenu The Father, l'histoire d'un vieil homme qui sombre dans la démence, joué par Anthony Hopkins qui reçoit lui aussi un Oscar à l'âge de 83 ans. Et puis à noter le triomphe du film américain Nomadland, 3 Oscars dont celui de la meilleure réalisatrice pour la chinoise Chloé Zhao, 2e femme seulement dans l'histoire à remporter ce prix. Encore une rentrée pas comme les autres, après des vacances décalées où seuls 6,5 millions d'élèves retournent vraiment à l'école. C'est un choix sanitaire revendiqué par Emmanuel Macron qui s'est rendu ce matin symboliquement dans une école de Melun et il a évoqué le couvre-feu avec une élève de CM2. Dialogue.
Ce qui me dérange vraiment le plus à cette pandémie mondiale, c'est que le couvre-feu, c'est un peu énervant.
Ah ouais.
C'est un peu tôt. Il fait beau le dehors.
Donc. On va essayer de le décaler, promis. Tu vas voir. On va le décaler un peu. Parce que 19h, c'est tôt, je suis d'accord. 19h, c'est très tôt.
19h, c'est tôt, dit le chef de l'État. On rouvre donc les écoles primaires et les maternelles. Il faudra tenir 10 semaines jusqu'à la fin de l'année scolaire sans relancer la dynamique de l'épidémie, d'où la montée en puissance des tests. 400 000 tests salivaires cette semaine. C'est le cas notamment à l'école de la Valentine dans les quartiers est de Marseille qui accueille 300 élèves, Hugo Hamelin.
Ouais, les autotests sont arrivés ce matin dans les classes, livrés pendant les vacances scolaires. Ils sont donc destinés uniquement au personnel enseignant, 2 par personne et par semaine. Des tests qui devront se faire à la maison et non à l'école. William Fauché est conseiller pédagogique à Marseille.
Ça permet déjà de rassurer les enseignants puisque nous ne sommes pas forcément un public cible pour les vaccinations puisqu'il y a beaucoup d'enseignants de moins de 55 ans. Donc oui, enfin, les enseignants attendent ça, j'imagine, peut-être avec impatience, même si c'est sur la base du volontariat.
Oui, parce que c'est uniquement sur la base du volontariat que va se jouer ces autotests. Du côté des élèves, eh ben, ils sont un petit peu mitigés pour ce retour en classe, bien conscients d'être au centre des préoccupations sanitaires aujourd'hui. C'est le cas de Shana, une élève de CM1.
J'ai pas trop envie d'y retourner là, à l'école avec tout ce qui se passe en ce moment. Et ça nous embête un peu le masque parce que tout le temps on le rebaisse et tout. Et il y en a plein qui nous disent de le remonter. Du coup, à chaque fois, on se fait engueuler. En fait. Du coup, ça m'énerve. Et aussi, on mange tard à la cantine.
Les horaires de cantine allongés avec l'objectif de brasser au minimum les élèves de classes différentes, des places statiques, c'est l'une des autres nouveautés de cette rentrée un peu particulière.
Un reportage Hugo Hamelin dans les quartiers est de Marseille. Du côté des cours à distance, quelques difficultés avec les plateformes ENT en Normandie et dans le Grand Est notamment. Une cyberattaque a été rapidement déjouée ce matin. Cette rentrée, c'est le coup d'envoi d'un déconfinement à petits pas avec un couvre-feu qui pourrait donc être un peu décalé. Quant à la date, le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, a poussé ce matin sur RTL pour une réouverture des commerces le 10 mai. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, maintient lui l'objectif du 15 mai après l'ascension. Les États-Unis, le Royaume-Uni vont envoyer une aide d'urgence en Inde avec des réserves d'oxygène, tout comme l'Union européenne. 350 000 personnes ont été contaminées là-bas dans la seule journée d'hier. C'est un record mondial. On meurt même à l'entrée des hôpitaux et l'on s'interroge sur ce nouveau variant indien. Alors faisons le point avec vous, Odile Pouget. Que sait-on de lui et de sa dangerosité ?
Eh bien, on sait que son petit nom scientifique, c'est B1617, qu'il a été détecté pour la première fois en octobre dernier dans l'état du Maharashtra et qu'il est loin pour l'instant de s'imposer par rapport aux autres variants, puisqu'il ne représente aujourd'hui en Inde que 15 à 20% des échantillons séquencés. Mais c'est vrai que son côté double mutant préoccupe les scientifiques. On l'appelle comme ça car il est porteur d'une double mutation. En effet, la première pourrait faire en sorte qu'il soit plus résistant aux vaccins existants, mais pour l'instant, rien n'est prouvé. La seconde mutation pourrait être associée à une augmentation de la transmission. Il serait donc plus contagieux, mais sans doute moins que le variant britannique. Étude en cours là aussi. Ces deux mutations, on les connaît bien, mais c'est la première fois qu'on les observe ensemble sur un variant avec une diffusion importante.
Bon, et pour l'instant, ce variant n'a pas été détecté en France métropolitaine.
Non, mais on ne voit pas pourquoi on y échapperait. Il est en effet déjà détecté, déjà présent en Grande-Bretagne avec moins d'une centaine de cas, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suisse et en Belgique où il a été détecté sur un groupe d'étudiants indiens qui a transité par Roissy le 12 avril dernier. Il vient d'être classé par Santé publique France dans la catégorie des variants à suivre nécessitant une surveillance renforcée.
Odile Pouget, sachez aussi que l'Italie se déconfine aujourd'hui. Les bars, les restaurants, les cinémas, les salles de spectacle ont rouvert partiellement ce matin. On fait une pause dans un instant, on en vient à la question du jour autour d'une nouvelle loi antiterroriste.
RTL Midi. RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Faut-il une nouvelle loi antiterroriste? C'est la question du jour que l'on vous pose sur RTL.fr. Après l'attaque terroriste de Rambouillet qui a coûté la vie à Stéphanie, cette femme de 49 ans qui travaillait à l'accueil du commissariat, poignardée à la gorge par un ressortissant tunisien de 36 ans. C'est une question sur laquelle vous avez envie de revenir, Pascal Pro.
Oui, et les derniers actes terroristes en France, ce qui est frappant à Rambouillet ce vendredi ou à Conflans à l'automne, sont l'œuvre de personnes immigrées. Des personnes entrées illégalement sur le sol de France. Alors je ne sais pas s'il faut des lois nouvelles, mais peut-être faut-il appliquer celles qui existent déjà et notamment expulser ou ne pas régulariser ceux qui entrent dans le pays et qui au fond n'ont rien à y faire.
Alors, un projet de loi antiterroriste sera présenté mercredi en Conseil des ministres. C'est une triste coïncidence. Le texte était déjà à l'agenda. Que prévoit ce texte, justement, Alice Moreno ?
Eh bien, l'accent sera mis sur la cybersurveillance, notamment. Les services de renseignement auront accès aux données de connexion, aux algorithmes. Par exemple, ils pourront détecter un échange en ligne entre un internaute connu de leur service et un autre individu inconnu, celui-là, et ainsi ils l'identifient, le suivent. Ils peuvent aussi détecter une connexion à un site djihadiste. Cette technique existe déjà depuis 4 ans, mais elle devrait être pérennisée. Elle semble d'autant plus légitime que les derniers auteurs d'attaques terroristes étaient inconnus des services et n'ont eu que de maigres échanges avec la sphère djihadiste. Autre point important, les préfets en charge du suivi des personnes radicalisées sur leur territoire recevront des informations relatives à leur prise en charge psychiatrique. Cela devrait permettre une meilleure appréhension de ces profils hybrides entre idéologie terroriste et fragilité psychique à l'image de l'assaillant de Rambouillet. Enfin, le suivi des détenus pour terrorisme sera prolongé à leur sortie de prison. Il sera rallongé d'un à deux ans et le cas échéant, des restrictions de liberté pourront être prononcées à leur encontre sur cette période.
Merci Alice. Alors, pour aller plus loin, nous sommes avec Sébastien Pietrasanta, ancien rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui consultant spécialisé dans les domaines de la sécurité et du terrorisme. Une vingtaine de lois antiterroristes ont déjà été promulguées dans notre pays depuis 1986. Est-ce qu'un nouveau projet de loi s'impose ?
On est effectivement, on a le sentiment d'avoir une loi par an en matière de terrorisme ces dernières années. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger, non pas sur leur efficacité, mais sur la fuite en avant en matière de lutte contre le terrorisme. Il fallait mettre à niveau notre législation en 2015-2016 à travers la loi antiterroriste qu'on a élaborée en 2014, bien avant les attentats donc de janvier et novembre 2015. Et puis la loi sur le renseignement à l'été 2015. Mais depuis, effectivement, on a le sentiment d'être dans cette fuite en avant avec, pour le coup, là, une loi un peu fourre-tout qui prolonge des dispositifs qui ont été effectivement votés en 2015 et 2016. Et puis des mesures supplémentaires qui se font au fil de l'eau.
Alors, le terroriste de Rambouillet s'était radicalisé ces derniers mois. On a vu le contenu de sa page Facebook changer ces dernières semaines. Mais comment repérer ces bombes à retardement qui sont de plus en plus souvent des individus isolés ?
Alors c'est effectivement tout le défi pour les services de renseignement. On est face à un défi pour notamment la DGSI, parce que jusqu'à présent, on avait des commandos projetés ou des réseaux qui étaient en lien avec l'État islamique notamment, avec Raqqa. Donc on arrivait à avoir un certain nombre de surveillance
qui pouvait se faire. Aujourd'hui, ils n'ont pas forcément de lien, c'est ça la difficulté.
Exactement. Aujourd'hui, on a ce que certains ont appelé des terroristes qui arrivent avec fulgurance, c'est-à-dire qui passent à l'acte quasiment du jour au lendemain et qui se radicalisent extrêmement vite et sur lesquels on a effectivement peu de moyens d'interpellation parce que, par définition, cette fulgurance, elle n'est pas détectable.
Le terroriste souffrait, semble-t-il, de problèmes psychiatriques, de troubles du comportement depuis le début de l'année. Laurent Nouniez, le coordinateur national du renseignement, souhaite aujourd'hui un meilleur partage d'informations transformation entre les services de renseignement et la psychiatrie. Qu'est-ce que vous en dites ?
C'est un vieux débat qui n'est pas malheureusement nouveau, puisqu'on avait déjà eu ces débats-là, notamment en 2017 et 2018, et Gérard Collomb, quand il était ministre de l'Intérieur, était déjà intervenu sur ce sujet-là. Il y avait eu une montée, une levée de bouclier d'un certain nombre de psychiatres, mais aujourd'hui, il y a effectivement un meilleur partage d'informations qui est fait sur notamment avec les hospitalisations d'office, le fichier des hospitalisations d'office et le fichier des personnes radicalisées. Donc il y a déjà ce croisement qui se fait.
Donc ça sert à quelque chose ou en fait on a déjà les moyens ?
Bah, je pense qu'aujourd'hui on a déjà les moyens de connaître le passé psychiatrique. Après, tout ne relève pas de la psychiatrie et ça serait une erreur de considérer que les passages à l'acte relèvent uniquement de la folie de la psychiatrie. Il y a derrière aussi un discours politique, un discours religieux et la psychiatrie n'explique pas tout.
Bien sûr. Et ensuite, donc revenons au cœur de ce projet de loi. Pour ceux qui ont été condamnés pour terrorisme et qui sortent de prison, leur suivi passerait d'un an à deux ans. Est-ce que ça, c'est vraiment de nature à changer les choses, à votre avis ?
Non, mais là, on est dans une hypocrisie totale, pardon de le dire comme ça, mais en fait, en réalité, peu de gens le savent, mais il y a déjà des juges d'application des peines spécialisées dans l'antiterrorisme, ce qu'on appelle les JAPAT, qui ont pour objectif d'éviter les sorties sèches de prison et qui peuvent déjà prendre des mesures de surveillance judiciaire. Quelles sont les mesures de surveillance judiciaire ? C'est l'obligation de pointage au commissariat ou brigade de gendarmerie, éventuellement de pose de bracelet électronique, mais ça se fait d'un point de vue judiciaire pour les peines de plus de pour les condamnés qui ont été condamnés pour plus de 7 ans. Et donc ces mesures judiciaires, elles appartiennent à l'institution judiciaire. Là, aujourd'hui, on revient sur des mesures administratives. Et donc, c'est toujours le débat entre les mesures administratives qui peuvent être plus liberticides et les mesures judiciaires qui sont sous le contrôle d'un juge d'application des peines.
C'est une hypocrisie, vous nous dites. Merci Sébastien Pietrasanta. Le débat est ouvert. Vous pouvez nous appeler au 3210. Vous prendrez la parole d'ici un gros quart d'heure sur RTL. Dans l'actualité, il y a aussi cette tentative de féminicide sous les yeux d'un enfant de 5 ans. Ça s'est passé hier en fin d'après-midi à Alençon, dans l'Orne. Le père du petit garçon a poignardé sa mère avant de prendre la fuite, Guillaume Chiez.
Oui, il lui a porté au moins 2 coups à la tête et au bras avec un couteau de boucher. Puis l'homme a pris la fuite en dérobant la voiture de sa belle-mère, laissant derrière lui sa compagne en sang et leur fils de 5 ans. Il est toujours introuvable à l'heure qu'il est. La famille de la jeune femme a prévenu les secours. Elle a pu être opérée immédiatement et ses jours ne sont plus en danger. L'homme, quant à lui, est un récidiviste. Il avait déjà purgé une peine d'un an de prison en 2017 pour des violences contre cette même compagne. Il est également actuellement placé sous bracelet électronique pour d'autres violences avec armes et conduites sous l'emprise de stupéfiants. Le problème, c'est que le bracelet n'est pas géolocalisable. Il permet simplement de signaler si un condamné est présent ou non à son domicile. Un mandat d'arrêt a donc été émis ce matin contre l'agresseur et son signalement diffusé aux policiers et aux gendarmes locaux.
Récit Guillaume Chiez. Dans un instant, la campagne du candidat écologiste régionale en Ile-de-France, campagne jugée anti-vieux.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Décidément, les écolos ont du mal à communiquer après les sapins de Noël considérés comme des arbres morts ou encore l'avion qui ne doit plus faire rêver. Le candidat écologiste au régional en Ile-de-France, Julien Bayou, s'est offert une campagne de pub qui s'est violemment retournée contre lui. Pour inciter les citoyens à aller voter, on voit notamment une affiche montrant des seniors avec cette mention « Les boomers, eux ». Ont prévu d'aller voter. Julien Bayou a fini quand même par reconnaître une bourde, Marie-Bénédicte Allaire.
Bah oui, il admet que c'est maladroit et blessant en précisant qu'il n'a pas validé ce visuel mais en prend la responsabilité. Explication, le candidat écolo veut mobiliser les jeunes. 1,5 million d'entre eux n'est pas inscrit sur les listes électorales en Ile-de-France avec une première série de visuels qui stigmatisent des anti-écolos notoires. Une seconde pour dire attention, les seniors, eux, votent. Mais petit bug, les deux ont été publiés ensemble. Arnaud Champreux, premier conseiller en communication de Julien Bayou.
Julien Bayou et les écologistes ont conscience que le début du combat écologique, que l'écologie politique, elle est portée par des baby-boomers à partir des années 70. Donc c'est eux les pionniers de l'écologie politique. Donc évidemment qu'on ne vise pas eux. Ce qu'on veut dire aux plus jeunes, c'est que c'est bien de défiler dans la marche climat, mais il ne faut pas se laisser le vote à leurs aînés.
Reste que Julien Bayou s'est attiré une déferlante de critiques. On ne nous pardonne rien, se plaignent les écolos. Pas faux, mais ça devrait les conduire à être d'autant plus vigilants.
Marie-Bénédicte Allaire, comment sauver la filière automobile durement touchée par la pandémie? Réunion ce matin autour de 4 ministres. Plusieurs milliers d'emplois sont menacés. Ils misent, Anaïs Bouissou, sur l'investissement et la reconversion des salariés.
Oui, inverser la tendance. Pour inverser la tendance, l'État va d'abord investir davantage dans le secteur des véhicules électriques. Ça passera par plus de bornes de recharge sur les aires d'autoroute et ça passera par le bonus écologique quand on achète une voiture électrique. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de bonus pour une voiture qui coûte plus de 60 000 euros. Eh bien, ce plafond pour les grosses voitures va être supprimé. Le Master de Renault pourra, par exemple, bénéficier d'un bonus écologique. Deuxième axe d'investissement qui va se poursuivre, l'innovation. Développer les batteries à hydrogène, relocaliser la production des semi-conducteurs qui permettent de faire fonctionner les circuits électriques. Et enfin, l'objectif, c'est de sauver les salariés en faisant attention à la situation des entreprises sous-traitantes, beaucoup de PME, et en permettant aux salariés de se reconvertir. Tous les emplois ne pourront pas être conservés, ça c'est une certitude. L'exemple des fonderies a été donné ce matin. 15 000 salariés travaillent pour l'automobile dans les fonderies et ils vont fabriquer de moins en moins de métaux pour les voitures. Un fonds exceptionnel de 50 millions d'euros va donc être mis sur la table pour les reconversions. 30 millions de l'État, 20 millions des constructeurs Stellantis et Renault. Le but, c'est de mieux accompagner les salariés qui vont changer de métier, mieux les former pour qu'ils déménagent aussi si besoin et mieux leur permettre d'entrevoir un avenir professionnel.
Et oui, puisque le secteur automobile est en pleine mutation. Merci Anaïs. 5 syndicats de la fonction publique appellent eux à la mobilisation le 1er mai contre ce qu'ils appellent la politique sociale régressive d'Emmanuel Macron. Ils dénoncent aussi la dégradation de leur pouvoir d'achat et réclament l'ouverture de négociations salariales. Les tarifs réglementés du gaz vont augmenter de 1,1% au 1er mai. C'est l'une des conséquences du blocage du canal de Suez ces dernières semaines par un porte-conteneur géant. Football, Lille a éloigné Lyon du podium hier soir après s'être imposé 3-2 dans le Rhône. À 4 jours de la fin du championnat, la 4 journées pardon, de la fin du championnat, le LOSC a repris les commandes devant le PSG Monaco et les prouesses des joueurs de Lille hier soir font rêver les supporters. Franck Hanson.
Et oui, après ce match où Lille a frôlé la correction et remonte donc sur son trône, les supporters du LOSC peuvent souffler à l'image de Sylvain Fauquet, entrepreneur nordiste.
Toujours leader, c'est fabuleux parce qu'à 2-0 pour Lyon, on était quatrième et éclair de génie de Burak Yılmaz qui nous remet complètement dedans et le talent a fait le reste. Ça sent bon, il n'y a plus que 4 matchs. On ne voit pas ce qui peut maintenant empêcher les gars de finir champion. On espère tous.
Et même si le coach Christophe Galtier, qui s'offre de belles roulades, se fixe désormais cet objectif, Marc veut rester prudent.
Ça va être dur parce que le Paris Saint-Germain, ils vont pas se laisser faire. Ah, c'est sûr que c'est pas le Qatar. Hein. Ouais. On n'a pas le budget du Qatar, quoi. Mais bon, on fait avec nos moyens. On est quand même devant. Ouais. Pour moi, on va être champion. Je suis toujours fier d'être du Nord, moi.
Et la course titre passera aussi par un derby face aux voisins lensois.
Match hyper important pour la suprématie régionale. À nous encore de montrer qui est le patron, c'est tout. J'ai lu aussi des messages de supporters lensois sur Twitter qui sont très intelligents et montrant que Lille est à sa place. C'est à sa place. C'est deux équipes très très bonnes.
Il va faire chaud donc dans le Nord dans les prochaines semaines. Mais on y croit.
Allez le LOSC, allez les dogs.
Allez les dogs, merci Franck. En Coupe de France pour les demi-finales, le PSG se déplacera à Montpellier. Monaco jouera chez les Hauts-Savoyards de Rumilly-Vallières, le petit poussé. Ils sont les quatrièmes représentants de quatrième division à atteindre les demi-finales depuis 20 ans. Enfin, vous prendrez bien un petit brin. La tradition sera enfin respectée le 1er mai. Les fleuristes, jardineries, associations et particuliers pourront vendre du muguet dans des conditions quasiment normales. L'an dernier, on se souvient que le confinement strict ne nous avait pas vraiment porté bonheur. Pascal Pro, vous êtes de retour.
Oui.
Vous
savez qu'en France, on a le droit de ne se moquer aujourd'hui de personne. Ce qui est bien normal d'ailleurs, parce qu'on peut blesser des gens. Mmh. Bon. Mais en revanche, il y a une catégorie dont on a le droit de se moquer toujours et tout le temps. C'est les vieux. Alors ça, les vieux, les boomers, ça, on n'a pas le droit de se moquer des choses, on n'a pas le droit de se moquer de ceci, de cela. Mais alors les vieux, on a le droit. Ça, on peut taper dessus. C'est drôle d'ailleurs, les boomers.
Ça marche pas ça. Les... Merci Marie-Bénédicte
à l'heure. Marie-Bénédicte, bonjour. tout va bien. Le micro est ouvert. Donc, les boomers. Alors, effectivement, c'est quoi un boomer? C'est donc quelqu'un qui est né en 45, 46, 47, 48. Donc, il y a quand même aujourd'hui 70 ans passés. Oui,
Et la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts aux régionales en Ile-de-France a publié sur les réseaux sociaux une série de visuels, on en a parlé, qui décline les exemples de supposés adversaires de l'écologie. Et les boomers, visiblement, ont tous les mots.
Vous avez entendu la justification, c'est qu'ils portent plutôt bien l'écologie, les boomers, en fait. On avait mal compris le message.
Écoutez, oui, pour le. Alors, donc ça fera réagir. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Et ce sera après la météo que nous en parlerons.
J'adore ces chutes abruptes. Et soudain, Pascal s'arrête presque au milieu d'une phrase. Hein, Louis, alors.
Bon, moi, je vais prendre la suite.
Donc,
qui n'est pas un boomer.
Non.
Merci, Pascal.
Dites-moi, Louis, dans le sud, les agriculteurs sont contents aujourd'hui. Et
exactement. Voilà, on va prendre le bon côté des choses. Et effectivement, il y a de la pluie dans le sud, hein, principalement en ce moment au sud de la Garonne, mais le risque existera sur toutes les régions situées au sud du Nil, La Rochelle, le Genève à peu près. Donc des averses tout au long de l'après-midi, entrecoupées quand même de quelques périodes d'accalmie avec quelques éclaircies. On l'a en ce moment sur le littoral méditerranéen, mais attention, là aussi, des averses parfois accompagnées d'orages vont remonter de Méditerranée. Pendant ce temps-là, au nord de cette limite, donc La Rochelle-Genève, sera totalement différent, avec un ciel parfaitement dégagé qui le restera tout au long de l'après-midi. Du coup, les températures sont très homogènes entre le nord et le sud. Alors, 12 à 16 degrés près de la Manche, mais 17 à 21 degrés dans toutes les autres régions.
Bon, et demain, même programme ?
Eh bien, c'est la même chose. Voilà, que ça nous plaise ou pas, c'est comme ça.
Nous,
encore des nuages
ici,
et quelques pluies. Alors, dans le nord, on est content, c'est vrai. Sauf les agriculteurs hein, qui commencent à réclamer un peu de pluie. Donc, de la pluie encore au sud, c'est à peu près la même ligne, hein, du nord de l'Aquitaine jusqu'à Genève. Eh bien, au sud, on aura encore des averses, parfois accompagnées d'orages, notamment près de la Méditerranée. Au nord, toujours beaucoup de soleil. Et les températures, comme aujourd'hui, sera parfois un peu frais au réveil. Hein. On l'a vu avec le vent de nord-est désagréable. Ça pique un peu. Et l'après-midi, des températures de saison, on sera toujours entre 16 et 21 degrés dans la plupart des régions, parfois un peu moins près de la Manche.
Et ce petit vent de nord-est, ça va durer ou pas ?
Eh bien oui, ça va durer. Parce que
ça
effectivement,
fait quand même 3 semaines que ça dure.
Oui, c'est ça. Du coup, on en reparlera, mais on a probablement battu des records de gelée pour un mois d'avril dans beaucoup de villes. Mais en tout cas, oui, ça va continuer encore un peu. Du coup, le soleil va résister dans le nord alors qu'on aura encore des averses dans le sud. Bon, en fin de semaine, on pourrait bien avoir des averses, y compris quand même dans la moitié nord, ce qui sera une bonne nouvelle pour nos agriculteurs.
Bien sûr, bien sûr. Merci Louis. À suivre le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
RTL.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et évidemment, vous êtes très nombreux à nous appeler après le drame de Rambouillet de vendredi. Stéphanie M, adjointe administrative de la police nationale, âgée de 49 ans, mère de famille, tombée sous les coups de Jamel G, un Tunisien rentré clandestinement en France en 2009. Christophe est avec nous, vous êtes policier, vous vouliez réagir, bonjour.
Bonjour Pascal. Oui, bah écoutez, beaucoup d'émotions, l'horreur et puis une colère immense par rapport à ce qui vient de se passer encore malheureusement.
Le rappel des titres avec Christelle.
La rentrée en ordre dispersé. Les 3-11 ans ont repris le chemin de l'école en présentiel. Les plus grands à distance avec une montée en puissance des tests salivaires et un protocole sanitaire strict. Un cas de Covid signifie la fermeture d'une classe. Quant au déconfinement, Emmanuel Macron trouve que le couvre-feu à 19h, c'est tôt. Il a dit ce matin à une élève de CM2 lors de la visite d'une école à Melun. Il reste sur l'objectif de rouvrir les terrasses mi-mai. Pour les restaurants, ils ne pourront ouvrir fin mai, début juin que dans les départements où le virus circulera moins, pas là où la circulation reste élevée. Des centaines de personnes ont dansé au parc des Buttes-Chaumont à Paris hier en fin d'après-midi. On a vu les images, la plupart sans masque, de manière improvisée. Le préfet de police de Paris a signalé les faits à la justice. Dans les Ardennes, les fouilles pour tenter de retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin reprennent. La zone désignée par Monique Olivier a été déboisée. L'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, qui a avoué avoir tué l'enfant, doit être amenée sur place cet après-midi.
Les auditeurs ont la parole.